Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du jeudi rural et après, portrait d'une jeunesse qui a fait le choix de rester, révélé par le mouvement des Gilets jaunes. Comment vivent les moins ou tout juste 20 ans dans les campagnes en déclin? C'est la question que pose avec beaucoup d'éléments de réponse le sociologue Benoît Coquart qui sera notre invité à retrouver à partir de 12h55. Mais d'abord, l'horizon s'anime avec Jean-François Laguioni. Le sixième long métrage du réalisateur de Louise en hiver sort en salle mercredi prochain. Le voyage du prince est une invitation à la découverte d'autres mondes, une porte ouverte vers ce si bel inconnu. Le cinéaste Jean-François Laguioni est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, ce sera sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Figure de l'animation, honoré d'un cristal au dernier festival du film d'animation d'Annecy, il retranscrit à l'écran ses rêves d'aventure. Il prend le large et rêve d'autres mondes. Réalisateur de Gwen, le livre de sable, de l'île de Blackmore, du tableau ou encore du si beau Louise en hiver, Jean-François Laguioni vous présente aujourd'hui.
Lorsque je repris conscience, je fus bien en peine de dire si je me trouvais parmi les vivants. Je suis le roi des Lancos.
C'est un singe d'un autre pays.
Il nous mènera tout droit à la catastrophe.
Et mes recherches, et mon labo.
Eh bien, retournez-y dans votre labo.
Le professeur doit tout savoir de toi pour préparer son rapport.
Qu'il me présente au roi.
Il n'y a pas de roi ici.
Les singes de ton pays doivent être fiers d'avoir bâti une cité plus belle que partout ailleurs.
Voici le singe qui a traversé la mer.
Pour les Nukos, il n'y a pas d'ailleurs.
Bonjour Jean-François Laguioni.
Bonjour.
20 ans après, Le Voyage du Prince apparaît comme la suite de l'un de vos précédents longs métrages, Le Château des Singes, sorti en 99. Comme est désormais Tom et le vieux prince n'est pas celui qui recueille et qui accueille ce petit homme tombé du pays d'en haut, il est au contraire celui qui se réveille dans un autre pays. Il fait d'ailleurs lui-même le parallèle. Je me retrouve dans la même situation, on m'examine aujourd'hui comme une bête. Pourquoi ce jeu de miroir inversé, Jean-François Laguioni? Vous n'aviez pas fini de raconter l'histoire.
Oui, en fait, vous avez raison. C'est peut-être pas un regret, mais une sorte d'insatisfaction en pensant à ce premier film. J'ai dû penser que j'avais pas traité le sujet, c'est-à-dire le sujet de l'étranger, de l'autre, avec suffisamment de sérieux. J'ai tenté de le faire cette fois-ci.
Avec vous, c'est le choc doux des civilisations, hein. C'est le choc sous l'angle de l'émerveillement. Est-ce cela ton pays, Tom? Ces tours magnifiques, toutes ces lumières, une cité plus belle que partout ailleurs, bâtie en 6 jours, s'exclame le prince, émerveillé par ce qu'il voit quand il ouvre la fenêtre dans ce nouveau territoire. Comment l'avez-vous construit, ce nouveau monde que découvre le prince?
Alors, il le découvre avec une sorte d'ingénuité, hein, bon, qui est un peu la mienne, hein, d'ailleurs, quand je vois la vie qui va. Mais assez rapidement, il en voit un petit peu les limites, qui sont celles de la forêt qui enserre la ville et qui s'arrange d'ailleurs pour lui donner des limites, pour qu'elle ne s'étende pas davantage. Alors, voilà, avec Xavier Picard, parce qu'il faut quand même tout de suite dire que c'est une co-réalisation avec Xavier, qui est un type absolument merveilleux, avec qui on a partagé la réalisation du film d'une façon idyllique. Et on s'est dit, bon, bah, comment faire sentir une contradiction, une opposition, un conflit, même peut-être entre la nature et l'homme, le singe en l'occurrence, mais bon, on fait tellement très facilement de l'anthropomorphisme, donc on s'identifie rapidement à ces personnages. Et on s'est référé à des gravures du 19e siècle qui sont tellement belles. Et pour les décorateurs, c'était vraiment un régal. Donc on a dessiné une ville.
Alors des caricatures à la Daumier pour les hommes, les personnages, oui, et pour la ville.
Oui. Les livres de Jules Verne étaient déjà pleins. Il y avait aussi chez les graveurs de cette époque un talent extraordinaire pour surdimensionner tout ce qui est naturel. Donc quand ils dessinaient une forêt, ils en faisaient une forêt de 400 mètres de haut, et ça servait complètement le conte que j'avais écrit.
Des Jules Verne illustrés, ce qu'on a le droit de voir aussi dans cette cité avant l'avancée de la forêt, une architecture proche d'un Métropolis de Fritz Lang ou encore de la cité du roi et l'oiseau de Paul Grimaud, de cette cité marmoréenne.
Oui, sans doute. Paul Grimaud est toujours présent dans ce que je fais, ça c'est très clair. En même temps, je n'éprouve pas une attirance très forte pour les villes, et je n'essayais pas d'en faire une caricature non plus. C'est-à-dire que quand je me moque un petit peu des choses, de la vie, c'est toujours avec un sourire. C'est-à-dire que je suis un pessimiste bienveillant, donc je ne critique pas une société tentaculaire telle qu'on l'a dessinée. Mais c'est comme ça. Et la vie nous montre que les artistes peuvent simplement peindre ou dessiner ce qu'ils voient, mais l'analyser, ça ne fait pas partie de leur travail.
La ville, votre ville, Jean-François Laguioni, on vient d'y entrer en son. Vous avez notamment travaillé pour la musique avec Christophe Héral. Et puisque vous avez cité votre co-réalisateur Xavier Picard, on peut aussi tout de suite citer votre co-scénariste Annick Leray et votre producteur Éric Jacquot, avec lequel vous avez travaillé sur ce film Le Voyage du Prince. Comment on y vit au pays des Newcos? Qu'est-ce qui le distingue du pays du Prince, celui des Lancos, si je prononce bien?
Oui, alors les Lancos vivent dans une société qui nous font penser un petit peu à la Renaissance italienne, 16e siècle, avec encore une place importante pour la poésie, pour la peinture, pour la chanson, pour la musique. Les Newcos sont tournés vers l'avenir avec le goût de la certitude et des choses clairement établies.
De la science et du progrès.
De la science et du progrès. Donc ils ont même inventé des peines pour les gens qui ne travaillent pas dans ce sens-là. Il y a des fabriques, il y a le catalogue de vente par correspondance qui régit tout, avec l'obsolescence programmée, enfin des choses complètement absurdes, mais sur lesquelles je m'attarde pas. Je préfère toujours avancer un petit peu. Et l'histoire est le voyage du prince est une sorte d'avancée avec des étapes vers toujours un petit peu plus de lumière.
Je n'y attarde pas. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas un philosophe, vous, Jean-François Laguioni. Vous n'êtes pas un homme qui ne fait rien et qui a réponse à tout, tel que votre personnage, le prince Laurent, définit les philosophes à l'écran. Vous, vous faites et surtout vous posez des questions.
Oui, ce qui est plutôt le rôle du philosophe, d'ailleurs. Alors, disons que je suis un philosophe sans le savoir. Mais c'est comme l'écologie qui apparaît dans la dernière partie du film. C'est quelque chose que je trouve vraiment sympathique, etc. Mais je peux aussi m'en moquer un peu à travers ce personnage-là, parce que il y a peut-être encore autre chose. Bon, c'est ma difficulté pour trouver des fins. J'ai toujours du mal à finir mes films, alors je les termine sur des points de suspension. C'est peut-être une petite facilité.
Du coup, vous acceptez des qualificatifs pour ce film? Fable, conte philosophique, satire, science-fiction?
Non, j'ai pas cette prétention. Conte philosophique, surtout pas. Mais Mais c'est un conte parce que je suis un raconteur d'histoire. Mais je ne vais pas non plus m'enfermer dans la technique narrative du conte. J'essaie de faire de la poésie, tout simplement.
Vous racontez des histoires et vous racontez des histoires, hein, Jean-François Laguioni. Ça commence peut-être toujours par soi. Est-ce que vous diriez que le prince est votre avatar? En fait, je me posais la question en regardant le film, mais maintenant que je vous vois, j'ai même plus envie de vous la poser, cette question, tant il vous ressemble physiquement déjà. Et c'est un curieux, c'est un passeur, c'est comme vous, un peu une figure de l'entre-deux, ce prince Laurent.
Bah, je m'identifie assez facilement à mes personnages. Je me suis peut-être beaucoup plus identifié à Louise en hiver qu'au prince de ce film. C'est aussi la qualité des dessinateurs, que les gens que j'admire beaucoup, par exemple, ils éprouvent beaucoup de plaisir à dessiner quelque chose qui n'est pas tout à fait en harmonie avec eux. C'est très mystérieux, le dessin. Un dessin en entraîne un autre. Et quand vous mettez à dessiner un personnage, il prend sa vie à condition de lui faire dépasser la figuration, de lui donner un intérieur. Et c'est le travail que l'on fait avec les gens qui animent ces personnages-là. On leur dit, mais vous êtes des comédiens. Le comédien, il n'a pas besoin de ressembler absolument au personnage qu'il incarne.
Mais le soir, depuis ma chambre, je voyais la mer devenir rouge comme de la braise. Était-ce le soleil qui lançait quelques lueurs d'adieu? Non. Il y avait autre chose. Il y avait un autre monde. Toute la nuit, dans une sorte de fièvre, je dessinais des machines pour franchir la mer ou pour traverser le ciel. Le sol de ma chambre se couvrait de rêves de papier. Hélas. Au matin, quand la brume recouvrait tout cela, je redescendais sur terre. Car je savais que mon peuple ne me suivrait pas.
Pourquoi? Ils avaient peur?
Non, mais ils sont paresseux. Ce sont des philosophes.
Avec Enrico Di Giovanni, qui fait la voix du personnage, ça a été vraiment une grande rencontre. Et maintenant, également une amitié. Et je me rappelle, quand je l'ai rencontré, je me suis rendu compte que son visage était beaucoup plus convaincant que celui que j'avais donné au prince. Et on a redessiné le haut de son visage et son regard, qui est très particulier. Et ça lui a fait vraiment plaisir qu'on retouche le dessin de façon à ce qu'il lui ressemble.
Vous dites que vous vous sentez plus proche de Louise en hiver que de ce prince, Laurent. Le prince qui échoue là sur un rivage inconnu, tandis que Louise en hiver reste coincée dans sa station balnéaire. Elle manque le train, elle reste à quai et elle va connaître ce lieu familier, mais tout à coup déserté. Elle va y passer des saisons seule sur cette plage, sans tous ses habitants habituels de la saison estivale. Plus proche de Louise en hiver, pourquoi? Parce que pour vous, vous vous sentez plus proche de sa manière, peut-être à elle, de voyager, de cette manière statique, dans le temps et dans les souvenirs. L'errance est pour vous avant tout imaginaire?
Oui, vous avez raison. Pour Louise en hiver, c'est un véritable voyage. Elle rate son train et le fait de l'avoir raté et d'être coincé dans cette petite station balnéaire, ça va lui permettre justement d'ouvrir les fenêtres et les portes de sa personnalité, de son passé, etc. Donc c'est un vrai voyage. Contrairement au prince qui, lui, est plutôt un aventurier, c'est-à-dire qu'il a besoin de rêver, mais il a besoin d'être en action, il a besoin de bouger, il supporte pas d'être enfermé dans ce grand muséum abandonné. Et moi, je suis pas un aventurier, j'avais un petit bateau pour essayer de coller un peu à mes films. En réalité, j'avais tellement peur de la mer que je suis pratiquement jamais sorti du port.
Jamais?
Oh, une fois, ça s'est pas très bien passé.
Alors jamais en vrai, mais souvent par par l'imaginaire, les livres.
Naturellement, on fait ça, on fait ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on écrit, c'est pour ça qu'on dessine.
Qui sont pour vous aujourd'hui, Jean-François Laguioni, les vrais voyageurs, ceux qui nous emmènent ailleurs, ceux qui peuvent nous faire découvrir d'autres mondes?
Ben, les écrivains avant tout, parce que l'écriture est quand même l'endroit qui offre le plus de liberté. Par contre, le fait de raconter quelque chose pour le cinéma, c'est quelque chose qui donne un début et une fin à ce qu'on raconte. Et cette idée du temps que je revendique, parce que par exemple je pourrais pas faire de la bande dessinée parce que le temps n'est pas présent dans la bande dessinée. Et là, j'en suis maître absolument. Mais ça finit par me mettre un petit peu mal à l'aise. Donc, si j'avais encore à choisir et à refaire une partie de mon existence, elle serait plus dans l'écriture que dans le cinéma. Mmh.
Qu'un cinéaste dise que les écrivains ou la littérature peut être parfois un art supérieur est quand même assez étonnant. Vous défendez votre profession sur quel terrain alors, le cinéma? En quoi est-il plus fort que les autres arts? Dans quelle dimension?
Le film d'animation en particulier, il a beaucoup évolué ces dernières années. Quand j'ai commencé à faire des longs-métrages, c'était encore une ère disneyienne et on était très mal à l'aise avec mes collègues face à cette chose mystérieuse et qui du film pour enfants.
Vous avez toujours eu la dent assez dure d'ailleurs contre Disney. Hein.
Non, je pense pas. Non, au contraire, j'admire le cinéma américain, je l'admire trop pour vraiment le critiquer. Simplement, c'est autre chose, je ne m'y reconnais pas. Et passer du court-métrage où on avait une liberté totale par rapport à nos sujets et nos formes d'expression au long-métrage a été très difficile pour moi. Ouais. Et puis peu à peu, grâce à des apports extérieurs comme le cinéma japonais par exemple, qui nous a fait beaucoup de bien, le public a évolué. Et je crois qu'il se rend compte maintenant qu'on peut tout raconter en animation. On peut adapter Shakespeare, faire des films noirs, des films érotiques, pourquoi pas, des films politiques, naturellement. Et enfin, je pense qu'il est en train d'acquérir une sorte de maturité. Et il y a des jeunes réalisateurs maintenant qui s'en emparent, et c'est formidable.
Quand je disais que vous aviez la dent dure, vous avez quand même dit une fois Disney pourrit l'animation. Mais c'était sur la question économique, c'était sur le marché que vous visiez aussi cette dégradation à un moment des conditions. C'est un marché de l'animation qui, en termes d'exploitation, en termes de réalisation, a été aussi mangé par toutes ces parts de marché oui. que Disney, avec Pixar, ont pu prendre sur l'animation.
Oui, ben, il n'y avait pas la place pour autre chose. Donc, j'ai fini par me dire que c'est comme dans le football, c'est-à-dire on n'est pas dans la même...
Division.
Oui, la même division. Notre boulot est quand même beaucoup plus artisanal, je crois.
Mais est-ce que les Français, dans ce monde de l'animation, n'ont pas toujours résisté? Est-ce qu'il n'y a pas toujours eu ce village gaulois de l'animation française?
Je dirais que c'est plus européen que français. Parce que, en effet, le cinéma que j'admirais quand j'étais jeune, c'était un cinéma d'animation qui était principalement créé en Europe centrale. Des pays comme la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, etc. Et je m'y sentais bien. C'est-à-dire quand j'allais là-bas, j'étais invité dans des festivals, j'avais l'impression d'être en famille. Mais naturellement, nos films ne voyageaient que dans les festivals, et c'est un petit peu étroit pour... On avait envie de faire connaître nos films au grand public, bien sûr.
Vous mettez un point d'honneur, Jean-François Laguioni, à travailler avec des studios de fabrication européens, à ne pas externaliser, délocaliser la production de vos films.
Oui, alors, ça dépend un petit peu du producteur. Depuis pas mal d'années, je considère quand même que je n'ai pas à me mêler étroitement de la production. Et je peux pas tout faire. C'est même parfois contradictoire d'être auteur-réalisateur et puis de dire, bon ben voilà, c'est comme ça qu'on va organiser le travail financièrement et puis on va aller chercher de l'argent ici et là, etc. Ça n'est pas mon métier, je ne sais pas tout simplement le faire. Donc je m'en remets au producteur et il se trouve que on n'a pas besoin de faire des super productions avec 300 personnes qui vont travailler sur un film. Mes meilleurs souvenirs dans l'animation, c'est à la fabrique, par exemple, dans l'île de Blackmore, on était une dizaine pour préparer le film. Et pendant 2 ans, à ce moment-là, on fait un véritable voyage collectif. Ce qui est difficile avec des budgets plus importants, des équipes d'animateurs qui sont dispersées dans tous les coins du monde.
Vous dites qu'un film, Jean-François Laguioni, c'est surtout une histoire. Mais quelle est votre technique?
Au niveau de l'histoire, alors j'écris.
Et au niveau de l'animation?
Non, j'écris beaucoup. J'écris des nouvelles, j'écris des contes. Et puis, de temps en temps, il y a une histoire qui m'excite un peu au niveau de l'image et qui me donne envie d'en faire un film. Donc j'essaye d'intéresser un producteur à ce projet. Mais ensuite, faire un film, ça va prendre 2 ans, 3 ans, etc. Le temps de chercher de l'argent, il va se passer 5-6 ans. Donc on ne peut pas en faire davantage, alors que des histoires, on en a plein. Et c'est un problème. Donc, pendant qu'on cherche le financement du film, je m'arrange pour faire la maquette du film. Bon, c'est un moment très joyeux. Avec Annick, on écrit le scénario, on enregistre provisoirement toutes les voix, etc. Et on travaille même déjà avec le musicien, de façon à réunir tout ce qui nous paraît essentiel dans un film, c'est-à-dire l'histoire, la musique, le texte, s'il y en a un, et un dessin très rapide, si possible, au départ.
Ici, la technique, c'est la 3D pour Le Voyage du Prince, que vous aviez déjà expérimenté sur 3D, 2D ?
Oui, dans Louise en hiver, on avait réussi aussi... C'est pas un exploit, c'est...
Et dans le tableau, déjà.
Et dans le tableau, c'est d'arriver à faire oublier l'outil pour que le spectateur ait l'impression que ce sont encore des dessins. Et c'est le cas, ce sont encore des dessins pendant un certain temps. Et puis après, bon, bah, l'animation peut s'arranger pour qu'on ait des outils informatiques qui nous donnent un petit coup de main. Mais c'est pas essentiel.
À l'écran, il y a des singes. Comme vous et moi, dans ce film, Le Voyage du Prince.
Dans quelle situation précise vous avez vu des hommes et ça vous a fait penser que ça pourrait être des singes?
Dans beaucoup de situations, dans beaucoup de manifestations, en particulier une dont j'ai parlé dans mon livre, il s'agit d'une visite à la Bourse. Je crois vraiment, en toute sincérité, qu'un être de bon sens, qui n'est pas prévenu à l'avance, et qui se trouve transporté à la Bourse de Paris par exemple, ne peut pas imaginer une seconde que les êtres qu'il a sous les yeux sont des homo sapiens. On ne peut pas imaginer qu'ils agissent par raison, ce n'est pas possible.
Vous voulez dire qu'ils sont conditionnés?
Oui, on dirait absolument que tous leurs réflexes sont des réflexes conditionnés, que leur comportement est un comportement animal où l'intelligence n'a aucune part.
Voilà, si vos personnages empruntent les traits des singes dans ce film encore, Jean-François Laguioni, comme dans Le Château des Singes, sorti en 99, contrairement à Pierre Boulle, qu'on vient d'entendre, l'auteur de La Planète des Singes, publié en 63, on peut dire quand même que votre film est plutôt un hommage à l'intelligence animale. C'est pas une satire sociale, hein?
Non, je n'ai pas la prétention de faire des satires. Je regarde autour de moi, il y a des choses qui me déplaisent et des choses qui me charment, donc je les écris, je les dessine, mais il n'y a jamais de jugement. Je pense que c'est au spectateur de se positionner lui-même par rapport à des sujets comme ça.
C'est un appel à ouvrir les yeux, à regarder ailleurs, à imaginer d'autres mondes que le nôtre, à quitter un peu ce regard trop ethnocentré et cette peur de l'autre que l'on peut avoir. Jean-François Laguioni, vous ne vous sentez pas, au fond, vous, comme ce vieux singe auquel on n'apprend pas à faire la grimace? Vous continuez à croire qu'il y a encore beaucoup d'ailleurs, beaucoup de mystères à découvrir et à imaginer?
Non, la peur de l'autre, qui est très présente dans nos sociétés actuelles, j'espère vraiment qu'elle va peut-être pas disparaître, si c'est inhérent à l'espèce humaine, mais qu'elle va vraiment s'atténuer. Bon, si on fait des films, c'est pour en parler, mais... J'espère que la poésie sert aussi à avoir un discours plus naturel. C'est-à-dire que on ne s'adresse pas, on ne veut pas dire les choses, mais on les peint, on les effleure, on les caresse. Et à ce moment-là, le lecteur ou le spectateur, il en fait vraiment ce qu'il veut.
Merci beaucoup à vous, Jean-François Laguioni. Le voyage du prince est une invitation au voyage, on l'aura bien compris. Rendez-vous en salle mercredi avec vos personnages. Merci mille fois à vous.
Merci.